récemment lu la fin avec, parce qu'il y a plusieurs chapitres sur l'histoire de Samson. On connaît la fin, comment est-ce que Dieu a délivré encore par la main d'un juge son peuple avec les Philistins qui étaient là. De mémoire, je pense que c'était un 3000 personnes qui étaient dans la maison où ce que Samson a fait tomber les colonnes et puis en rendant lui-même la vie avec ce dernier acte pour Dieu. Dans les chapitres suivants, on conclut l'histoire des juges avec beaucoup de confusion qui s'est passée dans le peuple, de confusion politique, de confusion dans leur foi, de confusion, même une façon, vous souvenez de l'histoire avec les Benjamins, avec la tribu de Benjamin. Bref, on n'a plus nécessairement de juges particuliers, mais on voit les derniers chapitres, comment est-ce que pendant cette période-là, les gens ont de la difficulté sans Dieu, finalement, parce que il y a encore une période d'abandon avec Dieu. Charles Corbière disait, et avec raison, « Vouloir être libre sans Dieu, c'est se condamner à tous les esclavages. Rechercher la liberté sans avoir Dieu dans l'équation, ben ça cause des problèmes, ça cause un autre esclavage qui est malheureusement pas bon. » Cette semaine, jeudi dernier, j'avais une entrevue intéressante, puis pendant que je pensais à la prédication cette semaine, j'ai pensé aussi à la rencontre que j'ai eue jeudi soir avec un imam. Un imam, c'est un peu l'équivalent d'un pasteur, mais avec chez les musulmans. Et puis, j'avais hâte à cette rencontre-là, c'est pour faire un petit travail de recherche avec Louis Roussel, le pasteur à Chauveau, là. Et quand on l'a rencontré, j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'elle allait me répondre. J'avais hâte de voir comment est-ce qu'elle a développé sa foi, puis ses arguments, puis une religion qui prend beaucoup d'ampleur, hein, l'islam, c'est très présent, de plus en plus, c'est très croissant, et je me disais, il doit sûrement y avoir quand même des fondements qui, à quelque part, pour les hommes, d'une façon raisonnable, font du sens. Et en écoutant ce monsieur-là, à la fin de l'entrevue, ma foi était tellement fortifiée, tellement fortifiée, là, et facilement et simplement, me dit non, mais c'est vraiment malheureux. Là. J'aurais peut-être l'occasion de vous redonner des bribes de cette rencontre-là, mais c'est aucune espérance. Ils n'ont pas d'espérance, ces gens-là. Ils n'ont pas de planche de salut. Ils n'ont pas de moyen de rédemption. Même le plus croyant, le plus grand adepte de l'islam ne pourra jamais être sûr qu'au jour dernier, il va pouvoir avoir sa place au paradis. Il n'est pas sûr de rien. Sûr de rien. Basé sur des œuvres, et on va essayer de plaire à Dieu comme ça, puis on va se croiser les doigts en arrivant de l'autre côté. C'est très triste, très malheureux. Et il me disait une chose qui aurait pu me troubler, mais encore là, me fait presque sourire, puis je vous le partage, là. Je ne le dirai pas nécessairement à n'importe qui, mais je pense que le contexte se prête. Et il me dit, ben, tu sais, dans l'islam, il y a un péché impardonnable. Hein? Puis c'est le péché, de mémoire, je pense qu'il a dit quelque chose comme d'association, d'associer à Allah, Dieu, un homme, par exemple, qu'on va mettre égal à Dieu. Fait que là, mais Louis, qui était avec moi, posait d'autres questions. Est-ce que ça veut dire qu'à l'extérieur de l'islam, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir Dieu? Ben là, c'est un peu ça. Puis là, je posais des questions claires. Je dis, moi, j'adore Jésus. Et puis, pour vous, Jésus, c'est un homme. Est-ce que pour Allah, c'est un péché impardonnable? Oui. Pour lui, c'est clair. Si j'adore Jésus, ben c'est Allah pardonnera pas ça. Et je vois comment est-ce que le Coran, et on peut voir d'une façon très claire, que le Dieu du Coran reflète pas du tout le Dieu de la Bible, d'un Dieu qui est certainement miséricordieux, comme ce que les musulmans voudraient le partager, mais un Dieu juste, un Dieu saint, et un Dieu qui a pourvu un moyen de rédemption pour satisfaire sa justice et son amour aussi. Et ça, c'est dans la personne de Jésus. Et Jésus, c'est Dieu. Malheureusement, pour les musulmans, mais Jésus, c'est un prophète, pas plus que ça. Peut-être même moins considéré que Mohamed. Et en réfléchissant à tout ce qu'il me disait, puis comme je vous disais, quand que je suis ressorti de l'entrevue, ma foi était fortifiée. J'étais fortifié d'avoir parlé avec lui, parce que je voyais comment ce que Dieu nous donne fait un sens, même à notre foi, puis qu'on peut s'y appuyer, puis qu'on a une espérance, puis une assurance vivante. Et ça, je pouvais louer Dieu de ça. Et je pouvais avoir cette paix-là dans mon cœur d'une libération complète de mes péchés, que de pouvoir vivre avec Dieu d'une liberté et de savoir que j'ai plus de condamnation puisque j'appartiens à Jésus. Et le thème des juges, on voit beaucoup cet esclavage-là du peuple qui se livre au péché, puis qui finalement, à cause de leur péché, que Dieu punit, puis que Dieu envoie des adversaires, envoie des ennemis, puis que finalement, ils se retrouvent à redevenir esclaves à cause de leur péché, parce que Dieu les châtie. Et il y a plein d'implications, je crois, et j'en suis entièrement convaincu, puisque le livre des juges est un livre qui est dans les Écritures, puis qui s'applique encore aujourd'hui, et qui a plein d'applications pour nos vies, à nous aussi, aujourd'hui. Et c'est dans cette optique-là que je voudrais compléter le thème, disons, des juges, qui est la liberté versus l'esclavage, mais appliqué pour nous aujourd'hui, appliqué pour nos vies aujourd'hui. Comment est-ce que pour nous, c'est une liberté que d'appartenir à Dieu, que de marcher avec lui? Comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité aussi d'être esclave du péché, puis d'être en proie à l'ennemi aussi, si je peux dire, à cause aussi du péché? Je pose la question. Quelles sont les applications pour nos vies? On commence tout avec une question d'application. On a vu le livre des juges sous un sens large de plusieurs juges, puis on a vu l'histoire, puis avec quelques applications. Mais c'est quoi les applications qu'on retire pour nous, pour nos vies aujourd'hui, avec le livre des juges? Quelques idées qui vous viennent en tête. Comment je peux mettre en pratique ce livre-là dans ma vie? Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a une redondance que je suis convaincu intentionnelle et que Dieu a voulu nous montrer le cœur de l'homme aussi. Et qu'on a à dire, moi aussi j'ai un cœur semblable, j'ai un cœur humain et j'ai besoin de Dieu aussi. Certainement des applications dans la nouvelle alliance qui vont venir renforcer nos faiblesses. Mais qu'on a encore cette faiblesse-là. Oui, Céline. Ouais. Ouais. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, imaginait son concept personnel et les religions datent pas d'hier, hein? Les gens qui se créent un concept eux-mêmes de ce qui est Dieu. Et finalement, on va faire semblant que c'est notre Dieu, puis on va marcher selon ce que notre cœur considère que Dieu est. Puis finalement, ça se trouve à pas être ce que Dieu désire non plus, quand on fait ce que notre cœur désire uniquement. J'avais vu une autre main levée. Oui, Paul. Oui. Oui. Dans la désobéissance, certainement qu'avec l'esclavage, il y a de la souffrance, la difficulté qui est là aussi, est plus grande qu'à l'obéissance. L'obéissance, certainement qu'il y a un renoncement, il y a une abnégation à avoir, mais la souffrance à la désobéissance, certainement beaucoup plus amère et désastreuse aussi. Oui, Jean-Pierre. Ouais. Ouais. C'est ça. Saisir le salut. Ouais. Très bien. Et justement, on va voir un passage tantôt dans Jean qui va compléter exactement ce que tu dis, Jean-Pierre. Exactement. De saisir ce que Dieu nous offre. Oui, Serge. Ouais. Ouais. De la consécration au compromis, au conflit. C'est ça. Non, c'est ça. Alors, on doit veiller justement à ce que ce cycle-là ne recommence pas. Oui. Merci, Serge. Un dernier commentaire, après ça, j'ai une autre question pour vous. Oui, Jacinthe? Le péché. Oui, le péché rend aveugle. Oui. 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 C'est ça. C'est ça. Et l'esclavage au péché, exactement, l'esclavage au péché fait que les gens se rendent même plus compte qu'ils sont esclaves du péché, qu'ils sont pris dedans, jusqu'à temps que les conflits sont tellement en surabondance, sont tellement présents que là, c'est difficile. Et là, les gens crient et à Dieu. Mais exactement, l'esclavage au péché rend aveugle. Et c'est quoi qu'il aurait fallu au juge pour ramener à la Nouvelle Alliance? C'est quoi qu'il aurait fallu? C'est quoi que ces gens-là auraient eu de besoin? Mais que Dieu certainement a pourvu, mais c'est quoi qui aurait pu leur sauver la peau, disons, d'une façon à avoir un fort potentiel à briser le cycle pour longtemps? Comprenez-vous ma question? Qu'est-ce qu'il aurait pu... ma question n'est pas claire. Qu'est-ce qui aurait pu arriver qui aurait pu briser ce cycle-là? Dieu brise le cycle de péché, d'esclavage, il envoie un juge, le juge libérateur, le juge ramène, ou du moins il motive les gens à dire « OK, on retourne à Dieu ». Quand ils ont crié à Dieu, Dieu envoie un juge, et puis là, finalement, les gens retournent. Mais qu'est-ce qui aurait pu aider le peuple à ce moment-là? Ma question n'est pas très claire, mais on va la clarifier. OK. Deutéronome 6, 5 à 8, tu veux-tu le lire? Ouais. D'avoir à enseigner la prochaine génération qu'eux-mêmes, ils s'attachent aux Écritures, qu'ils s'attachent à Dieu dans un amour sincère, un amour attaché aussi aux Écritures, puis qu'ils le transmettent certainement. Et voici aussi une bonne application pour aussi dans notre ère aussi, où est-ce qu'on doit veiller à transmettre notre foi aussi. Qui était le dernier juge? Il n'est pas d'un juge. C'est Samuel. Oui, Samuel. Hein, vous vous souvenez la tâche dure, la première tâche dure que Samuel a eue à faire? Il va dire à Élie que là, il y a un problème avec ses fils. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis le message était pour Élie, enfin. Et finalement, exactement. Élie, on voit qu'il a eu lui-même des problèmes avec ses fils. Mais certainement qu'on a une responsabilité aussi à transmettre la foi. Et là où est-ce que je voulais aller, où est-ce que le privilège immense que l'on a aujourd'hui pour nous, où est-ce qu'on est présentement, c'est d'avoir un libérateur qui est encore vivant et qui est encore présent. Je vous demandais c'est qui le dernier libérateur. C'est effectivement Samuel dans un sens historique. Mais dans un sens présent pour nous aujourd'hui, c'est Jésus. Jésus est le libérateur qui nous a été donné. Parce que ce cycle-là avait à être brisé de ce que les hommes reviennent à leur péché puis qui avaient besoin plus qu'un libérateur national, avaient besoin plus qu'un libérateur de terrestre. Là, quand que les gens, vous comprenez bien, quand que Jésus est arrivé, les gens s'attendaient à ce que Jésus soit devienne le roi, puis qu'on enlève l'oppression romaine, et puis qu'on veut un roi, on veut un libérateur, on veut un juge qui finalement va nous protéger, va nous donner une sécurité terrestre, sans comprendre que finalement la libération qu'on avait besoin premièrement est celle que l'on a avec le péché, et qu'on avait besoin que d'être libéré premièrement. Et quand il y aura un retour à la foi, il y aura un retour aussi national. Mais pour nous, aujourd'hui, on a ce privilège-là que d'avoir un libérateur qui est avec nous et qui nous donne la liberté de pouvoir le suivre, de pouvoir lui obéir et d'être libéré du péché aussi. J'aimerais qu'on fasse un mot de prière. On va tourner dans Romains. Vous allez trouver, c'est une longue introduction, mais ça va quand même aller vite, là. Romains 6, s'il vous plaît. Puis après ça, on va prier quand on aura trouvé Romains. Ce soir, ce que je veux qu'on voit, trois choses. Les leçons globales du livre des juges, on en a vu plusieurs déjà. Qui est notre libérateur à nous? Je pense pas qu'on va. On va juste. Ce soir, je vois la prédication un peu comme de se rappeler des vérités. Hein. Les vérités, des fois, on les connaît, mais des fois, on a besoin de les réchauffer pour qu'elles soient serrées dans nos cœurs. Et c'est qui notre libérateur à nous? Particulièrement dans Jean 8, qu'on va voir dans le milieu du chapitre. Et finalement, notre ennemi à nous, parce que les juges avaient des libérateurs qui venaient, mais ils ont eu des ennemis aussi qui sont venus, qui ont été envoyés à cause de leur péché. On a des ennemis aussi qu'on a dans nos vies. On a un libérateur aussi qui est près de nous, mais on va voir, c'est ça, premièrement, les leçons globales du livre. Fait que j'aimerais qu'on fasse un mot de prière, après ça, on va regarder dans Romains 6. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. On veut te louer, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu marches avec nous. Jamais tu nous abandonnes. Seigneur, tu désires ce qui est bien pour nous, ce qui est bon pour nous. Tu es un bon papa, et puis on est vraiment reconnaissant. Merci parce que tu te soucies de nos vies. Tu te soucies, Seigneur, de nous. Et Seigneur, on veut ouvrir les Écritures ce soir et te rencontrer. On veut disposer nos cœurs, pas seulement nos têtes, à écouter des théories, Seigneur. Pas des théories, mais des vérités intellectuelles. Mais Seigneur, on veut ces vérités-là, que tu touches nos cœurs avec pour que tu puisses transformer nos vies, pour qu'on puisse réformer nos voies, pour qu'elles puissent te ressembler, qu'on puisse prendre exemple dans tes Écritures et éviter, Seigneur, des erreurs aussi qu'on pourrait faire. C'est dans ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Commençons avec Romains 6, à partir du verset 16. On va lire les versets 16 à 23. J'aurai quelques questions pour vous, mais du moins pour commencer commencer et terminer le thème avec les juges de la liberté puis l'esclavage. Un volontaire qui voudrait lire 16 à 23, s'il vous plaît. Encore des versets qu'on connaît déjà très bien, mais qu'on va se rafraîchir. Oui, Monsieur Dumont. Jusqu'à 23, s'il vous plaît. OK. Pas une belle espérance, ça. C'est bon de lire ça, de voir comment est-ce que notre libérateur, on le sait qu'il nous libère, on le sait qu'il nous affranchit du péché, on le sait qu'on lui appartient et qu'on a une espérance. Bref, c'est encore chaud dans mon cœur, là, mais je pose la question, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui se met à obéir à un maître? La question est évidente, hein, mais qu'est-ce qui arrive? On se met à obéir à un maître? On est esclave. Verset 16, c'est ce que le verset 16 est en train de dire. Si on devient... si on choisit comme maître, par exemple, le péché, où conduit le péché? À la mort. Puis si on choisit l'obéissance, où conduit l'obéissance? À la vie, à la sainteté. Soit de l'obéissance ou soit à la mort. Puis c'est l'obéissance, mais c'est ce qui conduit à la justice. Celui qui est affranchi du péché, est-ce qu'il est encore esclave? Hein? C'était quasiment une question piège. Il n'est plus esclave du péché. Il n'appartient plus au péché. Ses membres ne lui appartiennent plus au péché. Il les livre plus au péché. Mais il est encore esclave. Et de qui? De Christ. Il est esclave de Dieu, de la justice. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, être esclave de la justice? Est-ce que c'est bon pour nous? C'est bon d'être esclave de Dieu. Pourquoi? Tu risques de porter des fruits, absolument. Quoi d'autre? Pourquoi c'est bon que d'être esclave de Dieu? Le joug est doux. Oui. Comment? Ah oui, c'est ça. Si on est esclave de Dieu, exactement, on est avec lui, on n'est pas ailleurs. Et exactement, c'est un très bon principe. Qu'est-ce qu'on doit faire justement maintenant avec nos membres, verset 19? Qu'est-ce qu'on fait avec nos membres? On est affranchi du péché, on est libéré du péché. Maintenant, on est devenu esclave de Dieu, esclave de la justice. Pour arriver à la sainteté, qu'est-ce qu'on fait avec nos membres? Les offrir à Dieu, les présenter, le servir. J'ai manqué ce que tu as dit, Paul? Livrer à Christ. Ça veut dire quoi d'une façon concrète à tous les jours, ça? Donner mes membres à Dieu, comment est-ce qu'on fait ça? Sacrifice? Dans quel sens? On pourrait citer Romains 12, certainement, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est un culte raisonnable, ce qui est une bonne chose. Exactement. Oui, certainement qu'on peut nous offrir notre vie, nos corps à Dieu pour dire « il t'appartient ». D'une façon concrète, Dieu veut qu'on le serve. Dieu veut qu'on utilise notre être à la justice, à sa personne. Verset 19, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, de la même façon qu'avant, on utilisait notre être, notre corps, nos membres pour le péché, pour l'iniquité, ben Dieu est en train de dire, maintenant, arrête ça et fais autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Et voilà ce que ça donne aussi que de livrer mes membres à la justice. Ce que Dieu veut de nos vies, qu'on goûte cette liberté-là, qu'on goûte cette sainteté-là aussi pour arriver à la sainteté, c'est qu'on donne nos vies à Dieu, nos corps à Dieu, nos membres, qu'on les livre à la justice. Et c'est une façon que de, comme tu disais, Jean-Pierre, que si on est avec Dieu, qu'on n'est pas ailleurs. Et j'aime beaucoup le principe dans les Écritures que j'aime répéter souvent. Dieu ne nous fait pas juste nous dire « fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, puis arrête ça là. » Le principe que Dieu dit, c'est « arrête ça, puis en échange, fais ça. Arrête ça, puis en échange, fais ça. Arrête le mal et fais le bien. » Et ça, c'est le principe des Écritures. C'est le principe aussi de lutter pour éviter ce cycle de désobéissance qui peut revenir continuellement. Si on choisit l'obéissance, mais continuons d'obéir et que justement, ça va nous aider aussi à renoncer au péché. Alors, quel avantage qu'on a d'être esclave de la justice ou être esclave de Dieu? Ben, verset 20, car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Ça veut dire que j'étais pas en train de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Je suis pas en train de faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et finalement, être libre à l'égard de la justice, est-ce que c'est bien? Évidemment pas. C'est à mon préjudice. Et quel fruit portiez-vous alors? Est-ce qu'on est fier de ces fruits-là? Non. Des fruits qu'on rougissait avant. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est l'espérance que l'on a aussi. Dieu nous donne la liberté. Dieu nous affranchit du péché pour qu'on puisse devenir esclave de la justice, devenir esclave de Dieu. Et c'est une bonne chose pour nous. Et c'est un bon moyen que de livrer nos membres à la justice pour lutter contre le péché à laquelle on voudrait aussi qu'on pourrait être tenté. Je vais juste faire quelques résumés rapides à ce qu'on a vu dans le livre des Juges. Qu'est-ce que la liberté sans Dieu? Ben, c'est un peu celle qu'on a vue justement dans le livre des Juges. La fin de Josué jusqu'à l'établissement de Saül comme roi, il s'est passé 350 ans où ce que finalement on voit un peuple qui ont des difficultés puis qui court continuellement après la paix dans leur pays. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la paix? Parce que justement, ils reviennent à faire, comment est-ce qu'ils disent ça? Là, j'ai déjà oublié le malheureux refrain. Israël fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et à cause de ça, il y a eu un revirement. Quelle autre histoire parallèle qu'on trouve dans le livre des... qui n'est pas dans le livre des juges, mais qui est en même période? Ruth! Une petite bribe de un vent frais où est-ce qu'on voit la main de Dieu avec l'histoire de Ruth et comment est-ce que Dieu a dirigé cette situation-là, mais qui est une situation difficile aussi. Après un esclavage très long, puis de 40 ans sous des tentes, quand on parle du peuple d'Israël qui était esclave en Égypte, qui est sorti, errant dans le désert, mais le voyage est terminé, il arrive en terre promise, puis finalement vit encore beaucoup d'esclavage sur une longue période de 350 ans à cause qu'ils s'en vont vers le péché. On a vu aussi en parallèle le caractère de l'homme. Dans des thèmes du livre, on a vu le caractère de l'homme, comme on citait tantôt, versus le caractère de Dieu. Il y a des belles choses à découvrir dans le livre des juges. La platitude de revenir continuellement de l'homme vers son péché et la puissance de Dieu d'être capable de libérer l'homme de son péché aussi, avec des juges qu'il a envoyés, avec des moyens tout à fait particuliers, et en utilisant, comme on disait aussi, qui est un thème qui revient dans le livre des juges, les choses futiles de ce monde. Hein? Comment est-ce que Dieu a délivré, par exemple, avec les 300 hommes de Gédéon, comment est-ce que Dieu a délivré son peuple avec Samson, avec Jephté, avec... On a vu plusieurs juges comme ça, puis... Dieu utilise des choses. On parlait de la semaine dernière d'une mâchoire d'âne, où ce que Samson a tué plusieurs hommes. Mais Dieu utilise les choses futiles de ce monde pour montrer sa puissance aussi et montrer sa toute puissance, être capable de délivrer son peuple. Si Dieu ne change pas, sans Dieu, l'homme ne peut pas changer non plus. Il y a eu en tout 15 juges. On a parlé de plusieurs juges, des juges guerriers, des juges sacrificateurs, comme on voit avec Élie, puis des juges prophètes. Et puis, on a vu aussi dans le livre des juges, juste pour résumer les dernières lignes, on a vu 7 abandons dans le livre des juges, 7 périodes d'esclavage, 7 nations étrangères dominantes, 7 délivrances. Et 7 délivrances. S'il y a eu 7 périodes d'esclavage, Dieu a délivré son peuple à 7 reprises aussi. Il a utilisé 7 nations étrangères aussi pour châtier son peuple. Comment est-ce qu'on utilise notre liberté? Comment est-ce que ce peuple-là, qui pour eux, dans leur tête, d'une façon nationale, on sort de l'Égypte, on est libre. Comment est-ce qu'ils ont utilisé leur liberté dans un sens pratique, dans leur foi? Et on a vu que ça s'est tourné contre eux. Pourquoi est-ce que ce cycle de désobéissance se perpétuait? Pourquoi est-ce qu'ils ont préféré les dieux étrangers que l'Éternel? Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait son propre cœur, son propre désir. Ça fait en sorte qu'on préfère des dieux qu'on va se créer nous-mêmes plutôt que d'accueillir ce que Dieu nous donne pour transformer nos vies. Et justement, je vous invite à tourner dans Jean 8. Pourquoi est-ce qu'ils ont préféré des dieux étrangers, je lançais tantôt, plutôt que l'Éternel? Dieu nous dit des choses qui sont vraies sur nos vies. Dieu nous dit des choses qu'on a besoin de transformer et on a besoin que d'accueillir continuellement cette parole-là que Dieu a dit pour nos vies pour justement continuer de goûter la liberté puis de demeurer affranchi du péché. Est-ce qu'on est bien loin de ressembler aux gens de ce peuple-là? Est-ce que c'est une attitude révolue? Mais on veut du moins dans notre propre vie ressembler à ça. Jean 8, un volontaire qui voudrait lire un verset pour commencer. Jean 8, verset 12. Je pense que René t'a prêché sur ça là, 3 ou 4 dimanches ou plus. Là. Mais sans tout redire ce qui a déjà été dit, Jean 8, 12, qu'est-ce que ça dit, un volontaire? OK. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » En quoi Jésus, qui soit la lumière du monde, devient une source de libération pour nous? Si on dit qu'il est la lumière du monde, la lumière de la vie, en quoi est-ce que la lumière pour nous est un moyen de trouver la liberté, de goûter la liberté? Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, on ne profite pas de la vie dans les ténèbres, certainement. Pourquoi est-ce que la lumière, pourquoi Jésus, qui est la lumière du monde, la lumière qui nous est donnée, pourquoi est-ce qu'il est pour nous une occasion de goûter la liberté. En quoi est-ce que l'Éternel peut offrir plus? La question est évidente, mais je veux des réponses de nos bouches. En quoi est-ce que l'Éternel, c'est mieux pour nos vies que de suivre, d'adorer l'Éternel que d'aller vers une idole? En quoi est-ce que l'Éternel peut nous offrir cette liberté-là? Il sait qu'est-ce qu'on a de besoin. Notre Père, c'est ce que tu disais? Oui, il sait, il connaît nos besoins. Quoi d'autre? Oui, Justin? Oui. 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 J'aurais certainement pas de problème avec une interprétation semblable qui pourrait aller avec d'autres textes, comme par exemple Jésus avec la Samaritaine. Hein? Il dit, c'est celui qui boit de cette eau, parlant de l'eau qu'il peut offrir, il y aura des sources d'eau vive qui jailliront. Alors, certainement qu'une fois qu'on a une relation avec Dieu, dans cette relation-là que l'on a, certainement qu'on devient nous-mêmes aussi, on a la vie en nous que Dieu nous accorde aussi. Jean, dans l'épître de Jean, il va aller aussi dans l'autre côté, qui va dire, celui, si on marche dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, donc, c'est aussi une responsabilité que de dire, si je marche aussi dans la lumière, celui qui marche dans la lumière se purifie de tout péché aussi, pour ressembler à la personne qui suit dans la lumière. Oui. 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 Oui, absolument. Oui, c'est une très bonne illustration. Et certainement que si Jésus est la lumière du monde, et la lumière aussi qui m'accorde dans ma vie, ben ça va me créer. L'illustration est très simple. Hein? Si on est dans une chambre noire et qu'on met la lumière, on voit exactement tout ce qui est devant nous. Et ça nous permet de marcher librement, que de savoir où se placer, que de savoir quoi faire justement. Et c'est ce que Jésus veut nous apporter aussi dans une relation avec nous, qui est notre libérateur aussi. Jésus n'est pas seulement un libérateur qui nous a délivrés de l'ennemi, mais est en train de dire « Suis-moi maintenant aussi, viens avec moi ». Et puis, on pourrait compléter, là, regardez à partir du verset 21, que je vais lire rapidement, je veux surtout qu'on regarde les versets à partir du verset 30. Mais à partir du verset 21, c'est qui notre libérateur? Tantôt, je posais cette question-là. Qu'est-ce qu'on apprend sur la nature de notre libérateur? Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? D'où vient-il? Que dit-il? Qui est-il? Verset 21, Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. » C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est quoi qu'on doit croire que Jésus est? Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Regardez verset 28. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Qu'est-ce que Jésus est? Qui est mon libérateur? Qui est Jésus qui m'offre cette vie-là? Qu'est-ce que ces gens-là avaient besoin de comprendre de ce que Jésus est? Il est Dieu. Ouais. Ouais. Je suis. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu qui est venu accomplir le sacrifice qui pouvait nous accorder le pardon aussi. C'est pour ça au verset 28 qui parle de quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez Jésus, il est mort pour nos péchés. Dans son amour, il est mort même lorsqu'on était pécheurs. Et puis, c'est dans cet amour-là qu'il nous a aimés. Il nous a pas aimés quand on était déjà justifiés ou quand on était tout beau. Il nous a aimés quand on était déjà pécheurs pour nous affranchir, pour nous libérer. Et ça, c'est notre libérateur qui nous aime. C'est Dieu qui est venu pour nous sauver. Et c'est un, ce Dieu-là, Jésus, veut qu'on le suive, veut qu'on marche avec lui, veut continuer que d'être notre lumière. Et particulièrement, juste qu'on lise les versets 31 à 36, un volontaire qui voudrait lire ça? En fait, on va commencer au verset 30. Volontaire, Jacinthe, 30 à 36. OK. Il y a des gens, pendant que Jésus parle, verset 30, plusieurs crurent en lui. Ils ont cru ce qu'il disait de lui-même, c'était le Fils de Dieu, et Jésus, sachant qui avait cru en lui, c'est peut-être intéressant ici ce qu'il est en train de dire sur leur, du moins leur foi ou ce qu'ils croient en lui. Tantôt, on parlait, Jean-Pierre, tu disais de saisir la liberté, saisir le salut que Dieu nous accorde aussi. Et verset 31, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, qu'est-ce qu'il dit? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous, tu crois en moi, mais tu demeures dans ma parole, tu dis oui, moi je crois ça, puis maintenant j'y applique aussi ma foi et ma marche aussi, bien, tu es vraiment mon disciple. Et quand que je demeure dans sa parole, puis je suis vraiment son disciple, qu'est-ce que je goûte? Verset 32, un verset qu'on connaît bien, qu'on cite à plusieurs reprises, mais qu'est-ce qu'on goûte? La vérité. Et la vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous affranchira. Exactement. Quand que je crois puis que je demeure dans ce que Dieu m'a dit, mais je goûte la vérité, je connais la vérité, j'expérimente la vérité. Et quand je découvre la vérité, je l'expérimente, mais je découvre aussi l'affranchissement, la liberté de ce que Dieu veut que je vive. Pourquoi, je pose la question qui aurait pu être la même question qu'on aurait pu poser aux juges, pourquoi les Juifs n'ont pas l'air à percevoir leur esclavage spirituel? Jésus vient de dire ça, puis verset 33, il dit, « Nous sommes de la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Ouais, prenez ça pour acquis. Pourquoi est-ce qu'ils ne percevaient pas leur esclavage spirituel? Qu'est-ce qui leur manquait? Il leur manquait Jésus. Certainement qu'il avait besoin que de comprendre la relation qu'il y avait avec Abraham. Si vous faisiez les œuvres, on aurait pu continuer de lire, mais si vous êtes vraiment, verset 37, de la postérité d'Abraham, vous ne chercherez pas à me tuer, vous feriez les œuvres d'Abraham, qui c'est plus qu'une une relation de père, de sang, qui s'est multipliée, puis là que tu peux dire avec orgueil, moi je suis un fils d'Abraham, parce que dans le fond, les vrais fils d'Abraham, c'est qui? C'est ceux qui ont la foi d'Abraham aussi. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. C'est vraiment... Et là, encore là, les gens, nous autres, on est fils d'Abraham. Sur la terre, on n'a jamais été esclaves. Mais en fait, Jésus est en train de dire la foi d'Abraham, c'est ce qui l'a libéré. La foi d'Abraham, c'est ce qui peut vous libérer. C'est ce qui peut vous sortir de l'esclavage du péché. C'est ce que l'on a de besoin. C'est ce que ces gens-là avaient de besoin. En quoi le peuple au temps de Jésus n'a pas vraiment changé qu'au temps des juges, mais cette compréhension-là sur la liberté d'être esclave sur la terre versus être esclave dans leur relation spirituelle où ce que ils sont déconnectés de Dieu, ils sont détachés de Dieu pendant un temps parce que finalement leur foi les emmène à le vaciller, leur foi va vers d'autres idoles finalement. Oui, c'est ça. Et quand on demeure toujours fils? Oui. Je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est que On imagine une maison là où ce qu'il y a des esclaves, où ce qu'il y a un maître, ok, un propriétaire de la terre avec des gens qui sont là. Il y a des fils, il y a des enfants du maître, du propriétaire, et puis il y a des esclaves qui sont là aussi. Quelle part est-ce que les esclaves ont avec l'héritage du maître? Ils ont rien. À un moment donné, ils pourraient être vendus, ils pourraient tout perdre du privilège qu'ils ont. Ils ont beau être près de Dieu, mais ils ne possèdent rien. Tandis que le fils, lui, demeure toujours. Pourquoi? Parce qu'il est un fils, il est un enfant. Et il appartient à Dieu. Et maintenant, il y a une espérance vivante, il y a un attachement qui ne changera jamais et qui appartient maintenant à Dieu. Et ça, je pense que ça renforce de loin et de beaucoup l'espérance que l'on a aussi une fois qu'on est affranchi du péché. Je ne sais pas si ça répond à la question. OK? Et on peut relire le verset 36 qui complète bien aussi. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce ne sera pas juste une liberté que tu penses avoir parce que tu es près du maître et puis tu es quand même esclave. Mais si le Fils vous affranchit, et c'est qui le Fils? C'est Jésus. J'ai besoin d'être affranchi parce que Jésus vient de m'offrir et ce que Jésus nous a offert et qui est son pardon. Et là, c'est réellement la liberté quand le Fils nous affranchit. On a un héritage avec Dieu. On pourrait regarder Éphésiens, là, justement, mais... on appartient à Dieu. Je veux terminer rapidement. On vient de voir notre libérateur. On a fait le résumé avec les juges. J'aimerais qu'on termine avec Éphésiens 6, un passage qu'on connaît beaucoup. Mais on a des ennemis sur la terre. Et on a à lutter contre des ennemis aussi. Évidemment, le premier ennemi que l'on aurait en nous-mêmes, qu'on a peut-être vu aussi dans Romains 6, c'est notre propre chair par intentionnellement ne plus livrer nos membres à l'iniquité, au péché, puis les livrer à la justice. Et ça, c'est un premier ennemi que l'on a, notre propre chair. On a le monde aussi. Dans le monde, il y a la tentation aussi. Il y a la convoitise du monde. On pourrait lire de mémoire, c'est 1 Jean 3. Et il y a Satan et ses anges aussi qui sont un ennemi dans nos vies. Mais on doit continuellement veiller sur nos propres vies. Hein, tantôt, je posais la question rhétorique un peu. Pourquoi est-ce que le peuple revient continuellement dans ce cycle victoire, esclavage, victoire, esclavage, victoire, esclavage. Dans notre propre vie, je ne sais pas combien de temps ma vie va durer encore, mais je ne veux pas vivre ce cycle-là. De loin, chacun d'entre nous, je suis sûr qu'on est chacun convaincu qu'on voudrait vivre dans la victoire toute notre vie et pas dans l'esclavage. Et l'esclavage, pourquoi est-ce qu'il était esclave? À cause de la désobéissance. Pourquoi est-ce qu'il y avait une victoire? À cause de l'obéissance. L'équation a de l'air simple, et elle est simple, mais on doit veiller sur nos âmes, on doit veiller sur nos cœurs, et on doit veiller aussi à utiliser tout ce que Dieu nous donne pour être à l'affût aussi d'une bataille, premièrement, dans notre propre cœur, et avec un ennemi aussi qui nous guette. Éphésiens, je vais y tourner moi aussi. Éphésiens, chapitre 6. Quelqu'un qui voudrait lire les versets 10 à 18, s'il vous plaît? Un passage, comme je disais tantôt, qu'on connaît bien, mais qu'on va se rafraîchir des vérités importantes à nos vies. Oui, Paul. Okay, merci, Paul. Comment est-ce que la sainte cohorte, quand elle se lève, où est-ce qu'elle puise sa force? Comment? Dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. On a besoin de commencer avec cette vérité-là. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. De demeurer attaché à Dieu, revêter toutes les armes de Dieu afin de pouvoir quoi? De pouvoir tenir ferme. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Dans quelle occasion? Dans les mauvais jours. Ça se peut qu'on en vive des mauvais jours, mais on a besoin de ces armes-là pour que quand ces mauvais jours-là arrivent, qu'on puisse résister. Et puis quand on aura tout surmonté, pourquoi est-ce qu'on garde, on continue de garder ces armes-là? Pour tenir ferme. Ah oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est bon. Des fois, on voudrait lutter pour toute la guerre à venir, mais c'est bien. Dieu nous donne la capacité de lutter quand vient le mauvais jour. Et quand on pense avoir tout surmonté, quand tout va bien, on a besoin aussi d'avoir les pieds bien plantés pour rester debout aussi, pour tenir ferme. On a besoin de se fortifier dans le Seigneur. On a besoin de se revêtir des armes. Et ces armes-là sont quoi? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins quoi? La vérité. Ayez aussi pour ceinture, la vérité pour ceinture, la cuirasse pour la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Si on en laisse tomber un de ceux-là, qu'est-ce qui se passe? Comment? On devient vulnérable. T'as-tu dit un commentaire tantôt pas? On est mal protégé, exactement. Si je laisse tomber le bouclier de la foi, c'est malheureux, il me reste. C'est important que d'être bien protégé. Comment? Ouais, c'est ça. Un peu de firewall. C'est ça. Pour le gars d'informatique, là, les gens ont bien compris. Exactement, on a besoin du bouclier de la foi pour nous protéger. Et si on n'a pas les souliers que donne le zèle que donne l'évangile de paix, mais encore là, on devient peut-être des gens qui avancent pas nécessairement très vite, pas nécessairement très motivés. Si on connaît pas les Écritures, quoi de plus vulnérable, et je veux pas être condescendant dans ce que je dis là, mais de quoi de plus vulnérable qu'un chrétien qui connaît pas la vérité? Hein, qu'un croyant qui ne connaît pas la vérité? On a besoin, et un croyant qui perd la foi, quoi de plus vulnérable? Je pourrais le dire pour tous les éléments. On doit veiller sur nos propres vies que de dire où j'en suis avec l'armure que Dieu me donne, que Dieu me fournit. Hein? Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? On peut pas dire ça continuellement. Dieu nous fournit ces armes-là, mais on a, quelle est notre part dans ce que Dieu nous fournit? Les revêtir, les prendre. On a besoin de les mettre. Dieu nous les accorde et on a besoin de les prendre. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, ou ce qu'on pourrait citer Jésus, par exemple, dans la tentation. Le casque du salut, puis l'épée de l'esprit aussi, qui est la parole de Dieu. Et puis en tout temps, priez. Priez, entretenez cette attitude, cette habitude de prière aussi, pour vous-même, pour les saints. Priez de toute supplication, veillez à cela avec une entière persévérance. Juste donner quelques conclusions. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos propres vies? On a un libérateur qui est permanent. On a Jésus qui nous donne cette liberté-là, qui nous a affranchis du péché, qui nous donne la liberté, qui nous donne le privilège merveilleux que d'être son esclave, que d'être son serviteur. Et en même temps, ça n'empêche pas que parce qu'on a un libérateur qui peut nous donner toute victoire, qu'on ait aussi des ennemis, qui est aussi notre propre chair, qu'on doit veiller, mais aussi, comme on vient de voir, qu'on a à lutter contre, pas contre le sang et la chair, on ne va pas aller à la guerre d'une façon physique, mais qu'on a une guerre spirituelle à laquelle on doit veiller. Et on doit faire attention pour nos propres vies de ne pas, justement, prendre exemple sur le livre des juges, de ne pas répéter ce cycle de désobéissance. Quelques applications, je vous donne 5 applications. Le besoin d'être saint. Le besoin de pratiquer la sainteté, pratiquer la justice, livrer nos membres à la justice pour avoir la fin aussi la sainteté. Le besoin de la parole de Dieu, la connaissance des Écritures aussi. Une connaissance qui descend dans notre cœur aussi, évidemment. Ça ne doit pas seulement rester une connaissance. Le besoin de prière qui est très important aussi. Le besoin de fraternité, le besoin de communauté. Hein? Dieu ne nous appelle pas à lutter seul avec nous-mêmes, mais... Il y a un livre que je trouve intéressant, le titre « L'endroit le plus sûr au monde », l'Église. Dieu nous a donné un édifice à laquelle, puis l'édifice c'est nous, là, c'est pas, je suis pas sûr que notre bâtiment est l'endroit le plus sûr au monde, là. Mais bien qu'il est beau là, puis qu'il est bon, là, mais c'est pas ça l'endroit le plus sûr au monde. C'est vous et c'est moi, ensemble, on est l'endroit le plus sûr au monde dans notre guerre qui est spirituelle, qui n'est pas terrestre. C'est là qu'on a besoin de s'attacher aussi. Oui, Justin? Ouais. 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 C'est ça. C'est pas de la rapidité. Ouais. C'est ça. Ouais. Exactement. Et comme Paul renchérit en disant, nous on est habillés en armure, pas pour la guerre sur la terre, comme ce que ces soldats-là, ils pouvaient voir, mais on a besoin de se revêtir dans cette guerre qui est spirituelle aussi. Fait que je conclue avec notre besoin de fraternité, de communion fraternelle, et puis le besoin aussi de s'impliquer dans l'avancement du royaume de Dieu. Un esclave, les premières choses qu'on va rechercher en tant qu'enfant de Dieu, en appartenant, étant les sujets du roi, étant dans le royaume, c'est de rechercher la justice. Et puis, et son royaume aussi, de le faire avancer, de s'impliquer en tant qu'esclave, en tant que serviteur. Qu'est-ce que Dieu, tu veux que je fasse? Puis je vais m'impliquer, puis je vais avancer. De livrer nos membres, justement, que Dieu les utilise dans ce qu'il nous accorde. Je vous laisserai lire chez vous, vous rappeler 1 Corinthiens 15, 54 à 58, « Ô mort, où est ton aiguillon? » Hein, on a pleine victoire en Jésus. Je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur, on vient devant toi pour te dire merci encore. Pour ta parole. Merci pour cette liberté. Dieu, nos remerciements ne seront jamais assez grands, ne seront jamais assez bien formulés pour équivaloir ce que tu as fait vraiment pour nous. Mais Seigneur, en même temps, ce qu'on peut te donner de plus cher, que tu désires de nos vies, c'est qu'on marche avec toi, que nos cœurs t'appartiennent et qu'on marche dans la fidélité, Dieu. Tu veux qu'on te glorifie, c'est ça que tu désires de nos vies, et tu veux qu'on te glorifie en portant du fruit aussi. Et c'est cet accès qu'on veut te donner dans nos vies, que tu nous transformes, on veut marcher avec toi en toute occasion, même quand vient le mauvais jour ou quand on a tout surmonté, on veut tenir ferme pour demeurer des hommes et des femmes qui marchent pour toi avec intégrité. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen.